Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça y est, ça va commencer en ASMR comme sur ma porte. Ça y est, ça enregistre. Ça suffit. Agathe, ça suffit, ça va pas commencer. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Bastos Motivation, mon nouveau podcast. Je suis trop fier, je suis trop content. En plus, il cartonne. Incroyable, merci les amis. Et je reçois aujourd'hui une femme que vous connaissez tous. C'est obligé, vous la connaissez. Elle va se charger elle-même de faire une petite biographie vite fait. Agathe Oprou, bienvenue Agathe.
Merci Bastos.
Oh, ce qu'on va se mettre.
Coucou à tous, je suis très ravie d'être ici dans ce setup ultra professionnel. J'entends ma voix dans mon casque, j'aime beaucoup cette ambiance.
C'est pas mal, hein, je suis équipée.
C'est pas mal.
Ouais, ça fait plaisir en vrai.
C'est un travail de grand professionnel, donc je suis pas étonnée que ce nouveau projet cartonne pour toi.
Après, tu sais, c'est pas que l'équipement, hein, l'habit ne fait pas le moine.
Il le fait plus que ce qu'on pense.
Et merde. Bon, bah, j'imagine que c'est grâce à mon matos.
En partie, c'est une savante combinaison de plusieurs choses.
De toute façon, je suis pas sûr que tu aies encore écouté les épisodes, donc tu peux pas trop savoir le fond.
C'est faux. J'étais dans le taxi parce que j'ai trouvé un taxi pour venir parce que j'ai quand même traversé une ville entière pour venir jusqu'à chez Bastien. Et j'avais dans mes oreilles, et on peut le prouver immédiatement, le dernier podcast que tu as tourné avec Anna que je ne connaissais pas.
Tu connaissais pas Anna RVR?
Je connaissais pas Anna okay. RVR. Et du coup, j'ai déjà consommé plus de 10 minutes de ton dernier podcast dans le taxi. Plus 10 minutes du podcast de Anna, qui s'appelle Contre-soirée, que je connaissais pas.
Ok, et qui est très bien d'ailleurs, elle fait un vrai travail, et ça fait un moment qu'elle est au top des charts de podcast en France, depuis, je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle a lancé son podcast. Ouais.
Contre-soirée. Ah ouais, qui... Bah, je l'ai découverte grâce à toi du coup.
Et ben voilà, un follower de plus pour...
Quel influenceur.
Pour Anna. Tu sais que je t'apprends que tu es la première personne que j'invite ici qui a déjà écouté mon podcast avant de venir.
Mais moi, je bosse mes sujets, j'ai une formation de journaliste quand même.
C'est bien ce que j'ai cru comprendre.
Donc, je me renseigne un petit peu.
C'est bien ce que j'ai cru comprendre parce que Agathe a été un petit peu compliquée à convaincre.
Ah d'accord, donc on raconte absolument tout.
Ah, on est transparent okay, ici.
Bah, parlons de cette valise alors qui trône sur ton parquet.
Alors, ça tire à balles réelles.
À votre avis, est-ce que Bastos part en voyage ou est-ce que Bastos héberge quelqu'un qui vient d'arriver à Paris? Réponse après le jingle.
Oh, ce qu'on va se mettre.
C'est moi aussi, je suis transparent, hein, c'est la valise de Vivi. Et c'est marrant que ce soit la valise de Vivi parce que ça colle au thème d'aujourd'hui.
Absolument.
On va parler de, et c'est toi qui as choisi ce sujet, donc je te laisse l'annoncer.
On va parler de dépendance affective et ce thème illustré effectivement par cette valise béante pleine de sous-vêtements très mignons et de jogging qui correspond parfaitement à Vivi que j'adore. Ce thème m'a été largement inspiré par...
Les aventures de Bastos et Vivi.
Par la vie amoureuse youtubesque et rocambolesque de Bastos et Vivi Superstar.
C'est pas mal de choisir le sujet pour lequel tu viens sur un podcast en t'inspirant de la vie de ton hôte.
Oui, une source d'inspiration illimitée. Je pense que c'est illimitée.
Rare. C'est rare que ce soit comme ça, tu sais. Bon, en même temps, je préfère que tu aies dit ça plutôt que pervers narcissique ou gros loser.
Ou gros clochard.
Oh là là, mais bon, ça aurait pu être, je sais pas, un truc hyper flatteur. Ça l'est quand même pas.
Non, mais après, la dépendance... Là, on a commencé, là ?
Ouais, on a commencé.
Parce que, donc, pour donner quand même une définition... concrète de ce qu'est la dépendance affective d'un point de vue scientifique et psychologique, c'est un trouble de la personnalité psychologique qui induit d'avoir un besoin irrépressible de recevoir l'affection d'autrui. Alors ça peut être un membre de sa famille, ça peut être son pote, ça peut être son collègue.
Voilà, pas forcément sa meuf ou son mec.
Dans le cas qui va nous servir d'illustration pendant à peu près une heure, c'est sa meuf et son mec.
Je suis content que tu dises « et son mec » au moins, parce que...
Mais c'est pas une fatalité ni une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un schéma qui peut effectivement être toxique et qui peut effectivement provoquer de la souffrance chez l'un comme chez l'autre, mais c'est un schéma duquel on peut totalement sortir et dont on peut se départir.
Et toi, du coup, est-ce que c'est un sujet qui te touche particulièrement? Est-ce que t'as déjà fait l'expérience, toi personnellement, de la dépendance affective, soit de quelqu'un à ton égard, soit de toi à l'égard de quelqu'un?
Je pense que j'en ai déjà fait l'expérience dans...
Parce que t'as l'air très renseigné, je pose ça là.
Non. Je suis très renseignée parce que
c'est quasi inquiétant.
C'est le thème de ce podcast et qu'effectivement, j'ai fait quelques recherches.
Elle a ouvert quelques bouquins.
Il y a une note dans mon iPhone en ce moment qui s'appelle « Dépendance affective, podcast, bastos motivation ». Mais je pense, et déjà je suis passionnée par la relation à l'autre d'un point de vue empirique et d'un point de vue très extérieur. Tu vois, ça me fascine les interactions qu'on a entre nous et de les analyser, de les décortiquer. Je lis beaucoup de bouquins de sociologie ou de psychologie, mais d'un point de vue très amateur, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la dépendance affective, elle est souvent confondue avec de l'amour. C'est quand on s'appelle t'es ma vie, t'es toute ma vie, etc. C'est mignon, tu vois. C'est moi aussi j'ai pu appeler mon mec comme ça.
Mais c'est une illustration de dépendance affective.
Absolument.
Parce que si ta vie c'est quelqu'un d'autre, c'est très grave.
Absolument, Bastien. C'est exactement ça. Mais
et donc c'est de la dépendance affective revendiquée.
Absolument.
Tu vois ce que je...
et du
ça,
coup
ça c'est marrant, glorifiée même presque aujourd'hui.
Absolument, elle est glorifiée et en même temps elle est sous couvert de je l'aime plus que tout. Elle est un petit peu ignorée et du coup quand toi ou ton partenaire partait dans des crises d'hystérie ou de jalousie et de possessivité extrême, c'est de la dépendance affective. Dès qu'il y a des comportements toxiques, même si bon, on va pas employer ce mot à longueur de podcast, mais ou néfastes, tu vois, pour l'autre, c'est de la dépendance affective. Mm-hmm. C'est qu'il y a de la même façon qu'on peut être addict à la nicotine, à l'alcool, au jeu, on peut être addict à l'amour de l'autre, à l'affection de l'autre. Et quand tu es dans cette position d'addict, tu es prêt à tout accepter tant que en récompense, tu peux avoir une petite attention, un petit geste affectueux. Et je pense que t'étais beaucoup là-dedans avec Vivi.
Ouais, j'étais beaucoup là-dedans et je m'en suis rendu compte d'ailleurs à un moment, tu sais, en faisant la réalisation de qu'est-ce que je serais prêt à faire pour qu'elle reste avec moi.
Ouais, c'est fou.
Et j'étais prêt à aller très très loin.
Ouais.
Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo chez Louise, My Better Self, tu vois.
Ouais, ouais.
Et on parlait justement de ça et je m'étais rendu compte que j'étais prêt. Bon, tu vois, on peut pas dire si on est prêt à crever parce que genre tant qu'on n'est pas vraiment face au truc, on peut pas
Exactement.
Le dire. Mais j'étais prêt à accepter la tromperie, tu vois, vraiment,
ouais, ouais.
À la savoir et à l'accepter, tu vois, lui dire, écoute, tu peux voir qui tu veux tant que tu continues à me voir. Et ça, j'y avais vraiment réfléchi,
c'est drôle,
j'y
c'est
étais
pas,
prêt.
C'est pas drôle du tout.
Non,
mais
non.
C'est fou que tu aies réussi à avoir cette clairvoyance et cette lucidité sur toi-même. Parce que quand c'est un pote à toi, par exemple, qui a ces comportements, c'est facile de se tirer une sonnette d'alarme et lui dire, mec, là, je pense que tu t'oublies et que tu souffres et que t'es malheureux et c'est pas bon pour toi. Et même si je veux pas m'immiscer, je pense que la relation, là, ça va plus. Mais quand c'est toi qui es toi-même l'auteur et l'initiateur de ces comportements, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette lucidité sur toi-même. Parce que sortir de son propre corps, se regarder de haut, de
prendre
loin,
du recul,
ouais,
ouais.
Et se dire,
j'en suis là.
Ouais.
Ça, et ben,
compliqué.
Ouais, c'était vraiment compliqué. Mais en même temps, à ce moment-là, je me disais, ben, pour moi, ça serait encore OK. C'est-à-dire que ça vaudrait mieux que de la perdre.
Ouais, c'est fou.
Et attention, je pense que la dépendance affective, ça peut être dans les deux sens.
Ah,
tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément que moi, la victime en pleine dépendance affective. C'est plus difficile de prendre du recul sur l'autre, finalement, sur les sentiments de l'autre, puisque bah, c'est pas toujours transparent, l'autre.
Ouais, bien sûr.
Que sur les siens, quand même. Tu vois, même si tu dis, c'est quand même dur de prendre ce recul sur soi-même pour s'en rendre compte. C'est aussi très difficile de le prendre sur l'autre et d'arriver à savoir ce qu'il en est. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je l'ai jamais su, vraiment. Tu vois, j'ai jamais su vraiment, mais je sais pas, je me dis que peut-être de son côté, il y avait aussi une certaine dépendance affective qui s'exprime peut-être différemment, j'en sais rien.
Ouais, c'est possible. Généralement, quand on est dépendant affectif, donc vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est pour combler un manque bien sûr. Et moi, je sais, parce que bon, évidemment, je suis pas psychologue et j'ai aucune expertise professionnelle, donc je peux parler que de ce que je connais et donc de ce que j'ai vécu, de façon très cliché et très résumée, hein, pour pas rentrer dans un truc pathétique et un peu relou qui n'a rien à faire ici, de toute façon. J'ai pas du tout de relation avec mon père. Et depuis toujours, hein, j'ai pas vraiment de souvenir qu'on ait noué une relation paternelle, filiale. Non, peut-être quand j'étais toute petite, très enfant, mais j'ai pas de souvenir prégnant en tout cas.
Genre,
mais...
ça, c'est-à-dire, vous avez jamais eu de conversation vous...
Non, on n'a jamais vraiment connecté. Lui, c'était un papa qui était très pris par son travail, il avait son commerce, il rentrait très tard. Quand il rentrait, c'était pour se vider la tête, donc il était beaucoup sur son ordi, tu sais, il jouait à World of Warcraft.
Ah, comme moi.
Il jouait à Counter-Strike et tout, il avait besoin de ce moment de s'évader.
Et mes parents, donc, ils passaient pas de temps avec toi à discuter de ta journée, de ce que tu ressentais, de ce que tu vivais. Quoi.
Exactement. Okay. Et comme mes parents ont divorcé quand j'étais au collège, tu vois, je devais avoir 12-13 ans. Bon, bah, après, la rupture était d'autant plus matérialisée par ce divorce que, bon, bah, là, on avait encore moins de choses à se dire, de toute évidence. Donc, on n'a jamais vraiment connecté. Et moi, je sais maintenant, parce que j'ai 31 ans, je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'avais pas l'impression que ça concrétisait un manque chez moi, de pas avoir reçu cet amour de mon père, de pas avoir de relation avec mon père, de pas avoir ce rôle, cette figure paternelle dans ma vie de protecteur un petit peu, ou de, enfin, si le père doit être le protecteur de la famille, tu vois, mais c'est dans cet archétype qu'on idéalise peut-être quand on est gamine. Et ben, finalement, c'est un manque que j'ai cherché à combler par la suite dans toutes mes relations avec les mecs. Je me suis mis dans des situations sans doute semblable à celle où tu as pu te retrouver avec vis-à-vis de Victoria, mais j'avais besoin d'attirer leur attention, j'avais besoin d'exister à leurs yeux et j'avais besoin d'être le centre de leur monde. Ouais. Et ça se manifestait
leur
par
attention
exemple,
totale quoi.
Ouais. J'ai eu des comportements qui n'étaient pas du tout appropriés et je déplaçais dans mes relations des peurs d'abandon et des peurs de pas être à la hauteur ou je suis pas assez bien pour mériter ton amour ou ce genre de problématiques sur mes mecs et sur mes relations alors qu'ils n'étaient absolument pas à l'origine de ces failles et de ces névroses chez moi et j'étais pas du tout en mesure de l'analyser à l'époque.
Ouais. Mais moi, j'ai souvent été dans cette situation-là. C'est-à-dire, Vivi, c'est pas la première. Mm. Tu vois, beaucoup des histoires d'amour que j'ai eues étaient trop intenses pour moi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais dans cette espèce de situation de dépendance affective.
Mais ton schéma familial est hyper sain.
C'est ça le problème. C'est que je n'arrive pas à savoir d'où ça peut venir.
Ça.
Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est cool, t'as une réponse.
Oui,
moi, j'ai rien
moi,
du
j'ai
tout.
Moi, j'ai réussi j'ai eu la clé. Donc, je sais que maintenant, mes relations actuelles, elles sont ultra saines, tu vois. Et je suis pas avec la personne parce que j'ai besoin d'être avec la personne, je suis avec elle parce que j'ai envie d'être avec elle. Et si la relation ne nous convient plus, bah, j'ai aucun mal à m'en départir, à m'en séparer. Et tout le monde est, enfin, je fais en sorte que tout le monde soit heureux, qu'on se tire vers le haut, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que toi, il faudrait réussir à analyser qu'est-ce que tu, après, ça peut venir aussi d'un manque d'estime de soi-même, qui n'a peut-être rien à voir avec l'enfance, qui n'a peut-être rien à voir avec une construction ou un schéma familial et environnemental. C'est peut-être juste une vision que t'as de toi-même. Je sais pas d'où ça pourrait venir, mais il faudrait que tu creuses là-dessus.
Ouais, une vision de moi-même comme n'étant pas assez bien pour être vraiment nécessaire.
non, mais c'est possible.
Ouais, non, c'est possible. C'est mais qui est pas justifié par l'histoire de ma vie où j'ai l'impression quand même d'avoir accompli pas mal de choses, de réussir plutôt pas mal à peu près tout ce à quoi je touche.
C'est
tu
vrai,
vois ce que je veux dire depuis et pas forcément depuis seulement que j'ai fait un peu de télé et que je suis devenu quelqu'un d'un petit peu connu. Tu vois, avant ça, je pouvais aller bosser sur des bagnoles dans un garage et je pouvais aller promener des chiens. Mmh. Et tu vois, même ces activités-là que moi, personnellement, j'estime à peu près autant que le reste, c'est-à-dire faire bien quoi que ce soit, pour moi, c'est estimable, peu importe ce que c'est. Même pour ça, j'étais bon, tu vois, j'étais bon avec les chiens, j'étais bon avec les voitures, je suis toujours à l'heure, je suis le gars fiable.
Ouais.
Et puis, je fais bien les choses. Quand je décide de faire un truc, je le fais. Mmh. Donc, d'où il vient ce manque d'estime de moi-même, si c'est vraiment ça la clé, tu vois
et
ce que je veux dire?
En plus, cette dépendance affective que tu peux retrouver de ta part dans certaines de tes relations, elle se manifeste aussi... Donc pas seulement quand tu réalises que tu te dis franchement tu peux me tromper tant qu'on reste ensemble, vas-y fais ce que tu veux tant que t'es encore avec moi, je suis prêt à l'accepter, mais aussi dans le fait où tu veux absolument aider la meuf avec qui t'es.
Ah oui, t'as bien suivi toi.
Ouais, ouais, bah oui, oui. C'est le sujet de ce podcast, donc oui. Et ça, ça s'apparente au syndrome de l'infirmier ou du sauveur, ouais. Qui est que tu as l'impression que c'est un truc inconscient et dans les parties de ton cerveau auxquelles on n'a pas accès comme ça, juste en fermant les yeux et en réfléchissant très fort. Mais c'est-à-dire que tu pars du postulat que toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas une grande valeur ajoutée. Donc, pour que ta présence dans la vie de cette personne soit justifiée, il faut que tu lui apportes un truc. Mmh. Donc, il faut que tu l'aides professionnellement, il faut que tu l'aides à se dépasser sur, j'en sais rien, le sport, un autre truc, tu vois. Il faut que tu lui apportes quelque chose de concret dans sa vie parce que ta valeur seule à toi d'être humain ne suffit pas.
J'ai peur que ça me vienne un petit peu de mon papa qui a toujours eu, tu vois, qui a toujours eu ce rôle de très coach avec ma mère, tu vois. Et finalement, lui, sa carrière, ça n'a jamais été vraiment le centre. Ses exploits sportifs non plus, ouais, tu vois, ouais. Il a toujours suivi ma mère et l'a préparé physiquement, à l'encourager, à adapter sa vie pour que la sienne soit, tu vois, plus propice aux améliorations et au développement qu'elle voulait faire dans la sienne, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai peur que peut-être ça soit calqué sur, pas quelque chose de mauvais, mais cette manière de vivre de mon papa, tu vois ce que
ouais,
je veux
ouais,
dire?
Peut-être. C'est vrai que c'est une piste à explorer. Tu serais plutôt dans un schéma de reproduction d'un modèle que tu avais sous les yeux.
Peut-être, tu vois. Et je pense que c'est la seule piste que je peux voir, tu vois. Peut-être. Et encore aujourd'hui, tu vois, ma mère a envie de faire plein de trucs, d'aller à droite, à gauche, etc. Mon père ne peut pas vivre sans ma mère. Et pas en termes de j'ai besoin d'elle pour faire la cuisine ou pour m'aider. Non, pas du tout. Mon père ne peut pas vivre sans la présence de ma mère. Mon père est prêt à tout faire pour elle.
Ah
tu
ouais,
vois.
Ton ouais. père est dans une dépendance affective totale et absolue.
Ouais, je pense.
Ce qui n'enlève rien à un amour sincère et authentique, tu vois.
Oui, non, exactement.
Qui est couplé et ouais. qui évolue et qui vit en parallèle d'une.
Et bah, peut-être que j'ai calqué, moi, tu vois, plus finalement que ça vienne de comme toi pour un manque ou un trouble.
De quelque chose à combler.
Moi, quelque chose que j'admirais, tu vois, presque que j'ai admiré en étant petit et que j'admire toujours parce que cette dévotion amoureuse, genre, je la trouve extraordinaire, tu vois, c'est magnifique.
Et ça l'est du moment que.
Ça le rend pas malheureux.
Exactement, voilà. Que la personne n'en souffre pas.
J'imagine que ça va, tu vois. Après, peut-être qu'il faudrait que j'invite mon papa pour le prochain.
On l'appelle.
Dans le prochain podcast, je ne serai pas là. Ce sera Agathe et mon papa. Je suis sûr qu'il serait ravi. Non, mais ouais, je pense. Alors, tu vois, genre, peut-être ça pourrait être ça. Et c'est marrant parce que c'est peut-être la première fois que je le réalise, là, ouais, maintenant, dans cette conversation.
Mais toi, à l'inverse de ton papa, t'avais du mal à trouver ton équilibre dans ce don de toi-même et dans ce sacrifice de toi-même.
Mais peut-être que lui, son équilibre, il l'a trouvé dans une partie dans la souffrance, tu vois, j'en sais rien.
C'est possible.
Moi,
aussi.
Je suis pas, tu vois, genre, j'ai plus d'échanges avec mon papa que toi, certainement, mais je n'ai pas non plus eu des conversations aussi profondes avec lui, tu vois ce que je veux dire, sur comment il sent, etc. Et peut-être c'est aussi une autre génération qui a moins l'habitude, justement, d'être aussi transparent
ouais,
avec
c'est
ses
sûr.
Émotions.
Beaucoup plus de pudeur et de. Et même de tabou en réalité. Plus
de
que
tabou
de pudeur.
Et encore plus pour les hommes que pour les femmes, puisque ouais. ça témoigne d'une fragilité qui, à l'époque, n'était pas acceptable ouais. de la part d'un homme,
non,
tu vois.
Non, pas du tout.
Ouais. Mais ouais, c'est peut-être ça. Maintenant, la dépendance affective, j'imagine qu'elle ne vient pas toujours de celui qui est dépendant. Et c'est ça un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va créer la dépendance affective chez l'autre, en fait.
Alors, elle viendra toujours de celui.
Qui la ressent ?
Ouais.
Ah
c'est,
ouais.
C'est comme si, par exemple, tu dis le mec qui est accro à l'alcool, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute du whisky, quoi.
Ouais, mais je veux dire, un pervers narcissique, c'est pas celui qui est capable de la créer.
Ah, bien sûr que ça peut, si jamais.
Ou alors il va repérer
si jamais,
les gens.
En plus, tu as cette tendance à développer des comportements de dépendance affective et que tu tombes sur une personne manipulatrice et perverse narcissique. Bah, t'es mort. T'es
ouais. En fait,
mort.
Le pervers narcissique, c'est celui qui va repérer
ouais.
peut-être
et qui va
les profils.
À se nourrir de ça, mais
voilà.
c'est déjà là.
Ok, d'accord.
C'est déjà là.
Ouais. Donc, en fait, si t'as envie de réparer ou au moins d'essayer de diminuer cette tendance chez toi-même, mm-hmm. essayer de le reprocher à autrui, c'est vraiment prendre la mauvaise direction, quoi. C'est ça, en fait.
Oui.
Ouais. Non, mais oui, ouais, c'est vraiment. Ça. Parce que c'est comme le junkie qui dit ah non, il y a trop de drogue dans le monde
ouais.
en même temps, comment vous voulez que je m'en sorte?
Je suis passé devant un bar tout à l'heure, c'est nul, j'habite dans une rue où il y a trois bars,
ouais.
je peux rien
genre
faire.
Genre, faites interdire les bars dans ma rue, faites quelque chose, parce que sinon je vais pas y arriver.
Non, c'est exactement ça. Mais ouais. de toute façon, il faut partir du principe que quels que soient nos comportements, quelles que soient nos réactions, on est les seuls responsables de nos comportements et de nos réactions. On peut dire, ouais, mais j'ai fait ça parce qu'il m'a poussé à bout. Ouais, j'ai réagi comme ça parce qu'elle m'a dit ça. Ouais, j'ai fait ça parce que lui a répondu comme ça.
Et c'est une tendance très humaine de toujours essayer de reprocher à quelqu'un d'autre ce qu'on a fait.
Tu es la seule personne sur cette terre responsable de tes propres agissements et de tes propres réactions.
Cette phrase, on a l'impression que tu te l'es dite dans ta tête.
Ah ouais, mais ça m'a beaucoup
des milliers
aidé.
De fois, ça se voit. Elle l'a dit limite en fermant les yeux. Tu es Agathe, la seule personne.
Agathe, bordel, aussi.
Mais ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est
ouais,
ça.
Bien sûr. Et je suis douée d'une capacité de remise en question. Et toi aussi, je le sais. Et donc, quand tu fais ce travail sur toi-même, t'arrives à analyser tes failles les plus béantes, parce que tu te transformeras jamais en un modèle de perfection et de self-amélioration optimale. Mais tu peux quand même analyser les endroits où t'as de plus grosses lacunes et de plus gros déséquilibres, essayer de travailler dessus un petit peu tous les jours pour arriver à une espèce d'équilibre un petit peu, toujours un petit peu bancal, mais qui se rapproche de quelque chose de plus sain que ce que tu n'avais expérimenté jusqu'alors. Donc.
Et je pense que, tu vois, on fait un peu pour rigoler des parallèles avec l'alcool, avec la drogue, etc. Dépendance affective, il y a une vraie addiction.
Ah,
et je pense que le processus pour s'en sortir est semblable à celui de...
Un sevrage.
Un sevrage. Et je t'avoue que moi, je le ressens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? À des moments, donc quand j'arrive à identifier, ok, je suis dans une dépendance affective, il faut que j'essaye de m'extraire de ces comportements, de m'extraire de... Puis c'est même pas des comportements, puisque les comportements, c'est le résultat, en fait, d'émotions.
Mm-hmm.
Faut que j'arrive à m'en extraire. Et pour m'en extraire, je le ressens comme, tu vois, un moment où, par exemple, je sais pas, moi, j'ai fumé de l'herbe pendant un moment dans ma vie. J'avais cette volonté d'aller en fumer et genre tu vois l'instant ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire mmh. Ok, là j'ai ce besoin, il faut que je trouve une manière de ne pas le faire, tu
ouais.
vois, mais et c'est hyper dur.
Et là t'es en cure de désintoxication affective ou
j'ai été désintoxiqué.
Ouais.
Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que pendant la première partie de notre relation avec Victoria. Aujourd'hui, on n'est pas en couple.
Mais je rappelle que la valise est juste à côté de moi.
On se voit maintenant. Il y a eu une grosse pause, tu vois, dans le temps où on s'est vu.
Et c'est le voilà. fameux sevrage dont on parle.
Exactement.
Tu vois, c'est de couper avec ce qui te rend addict, entre guillemets, et de te retrouver seul avec toi-même pour justement renormaliser, entre guillemets, tes réactions et tes comportements, quoi.
Ouais. Maintenant, dans un sevrage, par exemple, tu peux prendre de l'alcool ou la drogue, le jour où tu y retouches, tu retombes, tu
ouais.
vois ce que je veux dire ?
Ouais, ouais. Généralement, il n'y a pas de retour
voilà.
en arrière.
Tu vois, c'est pour ça que moi, je prends vraiment ça avec des pincettes, tu vois
ouais,
ce que
ouais.
je veux dire ? Je fais très attention. C'est vrai qu'on se refréquente. Nous, on dit qu'on est amis. Maintenant, est-ce qu'on est hyper honnête à 100% avec ça?
La réponse est non.
Permets-moi d'en douter.
C'est un grand nom. N-O-N.
Mais voilà, je suis vraiment attentif à tous les signes.
Ouais, t'as
tu
raison.
Vois, et j'essaye vraiment de me protéger. Maintenant, le problème, c'est que, tu vois, c'est pas la faute de Vivi, comme on dit. C'est ma faute. Et non, mais c'est vrai.
Ouais, ouais.
C'est pas sa faute, c'est ma faute. Et moi,
je suis team Vivi de toute façon. Donc
D'accord, bon, très bien. Je veux dire, j'ai eu des relations avant qui ont tourné comme ça aussi. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? J'aurai des relations après qui risquent de tourner comme ça aussi.
Non,
parce
je pense que Vivi est ta dernière meuf. Je pense pas qu'il y ait de relations après.
Il va falloir que je crève vite alors.
Si ça peut te rassurer, là où l'analogie avec l'alcool, la drogue, la nicotine et tout s'arrête, c'est qu'en face de toi, t'as pas une substance illicite et néfaste. T'as un être humain doué de conscience et qui lui aussi peut, on l'espère, faire un travail sur lui-même, adapter peut-être certains de ses comportements.
Il peut même faire un co-travail.
Exactement. Parce qu'il peut y avoir des problématiques des deux côtés qui, comme tu l'as dit, peuvent se nourrir et se tirer malheureusement vers le bas. Donc.
Maintenant, le but, là, c'est vraiment pas de se remettre ensemble. On en a tous les deux énormément souffert. Ce souvenir, il est encore criant en nous, tu vois. Et donc, je pense qu'elle aussi est sur ses gardes, qu'on fait très attention.
Et donc là, situation de vie concrète. Là, ce soir, elle t'appelle et elle te dit finalement, je suis désolée, je vais pas pouvoir dormir avec toi ce soir. J'ai rencontré un mec, là, ma soirée.
Voilà. Exactement, c'est une situation qu'on a envisagée.
Je vais dormir chez lui, je suis transparente avec toi, donc tu ne me verras pas ce soir, m'attends pas.
Exactement, c'est une situation qu'on a envisagée et on s'est dit que dans ce cas-là, eh ben, il fallait juste l'accepter.
Et
maintenant,
tu t'en sens capable.
Et je m'en sens capable.
Okay.
Et je pense, je sais pas si elle s'en sent capable aussi, tu vois.
C'est ce que j'allais dire. Et elle, maintenant, à l'inverse, si
on n'est pas transparent comme ça. C'est-à-dire okay. qu'on ne parle pas de ces choses-là. Tu okay. vois ce que je veux dire? Et on passe pas énormément de temps ensemble. C'est-à-dire qu'elle vient à Paris une fois toutes les deux semaines mm-hmm. ou uniquement quand elle en a besoin. Mm-hmm. C'est-à-dire pour son travail. Mm-hmm. Et quand elle vient à Paris, bah, tu vois, si j'ai rien à faire, que je suis là, elle a un point de chute, on apprécie de se voir, tu vois, et voilà, pour l'instant, c'est bien comme ça. Moi, je me sens vraiment heureux. Maintenant, je me suis toujours senti beaucoup plus heureux, sevré et non amoureux.
Ah ouais?
Que amoureux dans ma vie, tu vois ce que je veux dire?
Ah
donc,
ouais,
c'est quand même un handicap, tu vois.
Ouais.
Et un handicap qui est pas propre à Vivi, qui est
ouais,
propre à
sûr,
toutes les autres filles dont j'ai été amoureux, pas toutes celles qui ont partagé ma vie, mais toutes celles dont j'ai été vraiment un fou amoureux. Je t'avoue que je commence à douter de mes capacités à me libérer vraiment de cette tendance, tu vois ce que je veux dire, de cette tendance à vivre mon amour d'une mauvaise manière.
Ouais, ouais, je comprends.
D'une manière qui m'handicape, d'une
là,
manière qui me fait du mal.
Le bilan que tu dresses, toi, le souvenir que tu associes à tes périodes où donc tu étais fou amoureux dans des relations, etc., c'est principalement de la souffrance.
Et c'est plénitude totale lorsque je suis vraiment avec cette personne coupée du monde et souffrance quand c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire?
Et donc, quand tu fais un ratio, c'est du 50-50?
Non, c'est des souvenirs de souffrance. Les souvenirs de souffrance sont quasi totalement occultés, les souvenirs de plaisir. C'est full souffrance. Ouais, donc c'est pas, tu vois, genre le bilan, il est quand même assez sombre. Maintenant, tu vois, de ma vie, si je fais un ratio de ma vie, c'est-à-dire, je suis un mec heureux, tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec comblé. Genre, j'adore ma vie, mais je l'adore célibataire, tu vois ce que je veux dire? J'adore célibataire, et c'est même pas une histoire de célibataire ou pas, je l'adore non amoureux. Je l'adore non...
Ah ouais, c'est fou.
Voilà.
Alors que moi, c'est vraiment mon sentiment préféré...
Ah ouais.
Quand je suis en couple avec une personne que j'aime et que la relation est belle, simple et saine, c'est les meilleurs moments de mon existence.
Ok. Et ben moi j'adore être détaché.
Ah
tu vois
ouais,
ce que je veux dire.
Moi j'adore être attaché.
Ok.
Mais après je suis drivée par ça. Tu vois, t'en as qui sont drivés par leur carrière, leur réussite pro.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Professionnelle et financière, moi, je suis drivée par ma relation avec le mec que j'aime et quand tout se passe bien.
Mais je crois que je l'ai été. Je l'ai été et petit à petit, à force des relations, je me suis rendu compte que c'était pas, tu vois, c'était pas pour moi. C'était pas ce qui me rendait heureux.
Ce qui te comblait vraiment, ce qui t'épanouissait en
tout
cas.
C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je vais trouver mon bonheur dans l'accomplissement personnel, dans... le dépassement de soi,
ouais, ouais.
dans la découverte, l'aventure, tu vois, toutes ces choses-là, et plus dans l'amour pour l'autre et de l'autre, en tout cas pas en couple, tu vois. C'est-à-dire que l'amour pour mes parents, qui est lui inconditionnel et qui ne partira jamais, tu vois ce que je veux dire, que ce soit
aussi.
Envers eux ou de leur part, de mes amis. Alors tu vois dans les amitiés par contre je suis assez solitaire, assez prudent, et parce que pareil j'ai été un peu déçu, mais ça pour moi ça a jamais fait aussi mal que en amour. Mais voilà, j'ai quelques rares amis pour qui c'est, tu vois, inconditionnel,
ouais,
et je
ouais.
sais que ça, voilà, ça partira jamais et on sera toujours hyper proches. Mais en couple, c'est plus... Je sais que j'arriverai pas à résister si demain je retombe amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'il est probable que je me remette en couple un jour dans ma vie.
Oui, je l'espère pour toi.
Bah, pourquoi?
Parce que
non, ça me fait mal.
Tu parles de...
Souhaite pas mon malheur.
Non, mais quand tu parles de ces découvertes, ces aventures et tout, moi aussi j'ai soif de ça. Et je trouve que de le partager avec la personne avec qui tu te sens le mieux sur la Terre, c'est encore une autre saveur, quoi.
Et ben moi, j'aimerais bien les partager avec mon petit frère, j'aimerais bien les partager avec mes parents, j'aimerais bien les partager avec ma petite sœur, j'aimerais bien les partager avec mes amis. Et je trouve ça trop risqué d'aller le partager avec une meuf. Trop casse-gueule.
Ça fait combien de temps que t'es célibataire, entre guillemets?
Célibataire, ça fait depuis Belle, en octobre ou un truc comme ça, ou en septembre.
Couple, c'était combien de temps?
Ma plus longue relation de couple, c'était 2 ans et demi. Et c'était une relation, il y en a eu deux. Il y en a eu une qui était probablement ma seule relation de couple hyper paisible.
Ah, incroyable.
Ouais, hyper
comme
paisible.
Quoi, c'est arrivé.
Ouais, mais du coup, je doute du vrai amour que j'avais, et surtout au bout de deux ans et demi, j'ai eu un coup de foudre pour une autre fille avec qui je suis resté à nouveau deux ans et demi. Et avec qui, cette fois, c'était très douloureux. Peut-être que la personne avec qui j'étais était trop saine pour que je puisse ressentir cette dépendance affective, tu vois, j'en sais rien. Je l'ai pas ressenti avec elle et je l'ai quitté pour une autre.
Ah, ouais, c'est fou.
De manière hyper transparente, hein, je l'ai jamais trompé, ouais, mais ouais. Je l'ai quitté pour une autre avec qui j'ai eu des gros problèmes de dépendance affective, tu vois.
Gros problème de comportement dans le bulletin amoureux de Bastos.
Ouais, mais tu vois, il y a un truc où que t'as dit, c'est cette histoire de syndrome du sauveur. Les profils pour lesquels je vais tomber dans la dépendance affective vont avoir souvent des histoires de vie assez, tu vois, similaires, avec des jeunesses un peu difficiles, ouais, etc. Ouais. Et c'est vrai que là, on reconnaît encore un red flag un petit peu, un truc où... Mais derrière, si... Tu vois ce que je veux dire? Si je me fais chier avec une fille avec qui je ne ressens pas la dépendance affective, c'est pas mieux.
Non, il ne faut pas que tu associes le fait de ressentir une dépendance affective à quelque chose de grisant et d'excitant. Ça l'est jamais, ou alors c'est vraiment que de la poudre aux yeux.
Bah oui.
Et en plus, quand... Parce que tu arrives à l'analyser, tu te rapproches de ces femmes au parcours un petit peu chaotique, etc. T'es pas avec elles uniquement pour elles, entre guillemets. T'es avec elles parce que...
Pour moi.
Oui.
Ouais, voilà.
Parce que t'as l'intime conviction, ouais, et l'intime impression que tu peux leur apporter quelque chose de mieux dans leur vie que ce qu'elles ont déjà connu. Et ça va, toi, te donner de la valeur et te valoriser et te faire te sentir mieux.
Moi, je suis une grosse merde.
Non. Non, parce qu'on peut pas enlever le bon sentiment qu'il y a derrière ça. Tu veux vraiment aider la personne de façon naïve en plus, et c'est pas un calcul de « Attends, si j'arrive à l'aider à accomplir ça, ouais, je vais être vraiment au max, je suis vraiment le boss. »
Non, c'est pas du tout calculé, c'est juste les gens que j'aime, j'ai envie de les aider, tu vois. Et c'est pas valable que pour la femme avec qui je vais partager ma vie, c'est valable aussi pour mon petit frère, ma petite sœur, mes parents, c'est valable pour mes amis, c'est valable aussi pour des gens que je connais pas, que je rencontre, et dans lesquels je vois un potentiel, tu vois, je vois un truc, et je me dis, moi aujourd'hui, j'ai le porte-voix nécessaire pour les aider à le réaliser. Et j'ai envie de les aider, tu vois ce que je veux dire? Et peut-être, en fait, que ça vient d'un problème de ma part et que je devrais être, tu vois, genre, je devrais pas avoir cette envie, je sais, tu vois, je sais pas.
Bah, en tout cas, en ce qui concerne tes relations amoureuses, il faudrait que tu puisses tomber fou amoureux de cette femme sans avoir eu tous ces éléments de son passé ou de son histoire qui t'ont fait tilt un moment dans ta tête en te disant... ouais, je vais la sortir de là, ouais, je vais pouvoir l'amener faire de grandes choses. Ou il faudrait que ces sentiments chez toi arrivent à se déclencher complètement, de façon complètement indépendante du coup, et de tout ce schéma de je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir la sauver, je vais pouvoir faire un truc pour elle.
Ouais.
C'est pas ça l'amour, c'est pas de l'assistanat, c'est pas du bénévolat, c'est pas une mission humanitaire, c'est pas
non, ça c'est sûr,
c'est pas une mission de coaching de vie ni de coaching de taf. Bastien, c'est censé être un... Il a fait un mouvement de sourcil.
Me gronde là, elle me gronde. Non, mais t'as totalement raison, et d'une certaine manière je le sais, tu vois. Maintenant ma question, c'est est-ce que si je suis heureux sans... Est-ce que c'est OK de me dire, je préfère vivre comme ça, tu vois ce que je veux dire?
Ah,
et je préfère être heureux sans qu'aller me faire du mal en consommant ces substances illicites.
Complètement.
C'est psychotrope.
Si toi, t'estimes que ton épanouissement personnel est satisfaisant dans cette solitude, entre guillemets, émotionnelle, et du coup... affective dans la relation amoureuse, en tout cas, ouais, personne te force ni t'oblige, et certainement pas les normes sociétales, à être en couple pour avoir réussi ta vie ou pour avoir accompli quelque chose de positif dans ton existence, quoi.
Exactement. Chacun vit sa vie comme il veut. Exactement. Aussi. Et voilà. Bon, après, j'ai jamais eu l'impression que c'était le schéma de société, on doit se mettre en couple, avoir des enfants, etc., qui me poussait à tomber amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas non plus blâmer ça, blâmer quelqu'un pour ça. Mais non, je me dis qu'avec l'âge et la sagesse que j'ai acquise à travers toutes les expériences que j'ai eues, j'apprécie ma solitude de ce côté-là. Je donne de l'amour au reste de mon environnement social. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien et d'essayer de faire le bien et, tu vois, genre de donner beaucoup.
Et l'idée de fonder une famille, d'avoir tes enfants, c'est quelque chose que tu as déjà conscientisé ou que tu as déjà réfléchi et tu as déjà tranché sur le fait que c'était pas ton délire?
J'avais qu'une envie pendant toute ma vingtaine, c'était d'avoir beaucoup d'enfants.
Ok.
Parce que j'adore transmettre, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et j'adore aussi apprendre des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, il y a un échange. Moi, je me suis toujours hyper bien entendu. J'ai toujours été le babysitter, tu vois, des enfants de mes oncles et tantes, de mes cousins, celui qui s'occupait de tous les petits, tu vois, etc. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu cette gigantesque envie d'être papa et d'être papa plein de fois. Et en fait, aujourd'hui, en voyant que d'un côté, dans la relation amoureuse, c'est très compliqué, mais aussi avec le temps, en voyant mon petit frère et ma petite sœur avoir des enfants, qui ont maintenant chacun deux enfants, ben j'ai l'impression que je peux trouver ça dans le temps que je passe avec mes neveux et nièces.
Ouais, ouais.
Et est-ce que ça me suffit pas? Tu vois ce que je veux dire? Je crois que ça me suffit. J'ai pas l'ego de me dire il faut absolument que ça soit les miens. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas aller dans, tu vois, échanger et transmettre avec les gosses des gens que j'aime et que j'aime aussi énormément. Tu vois? Et finalement, au moment où j'ai trouvé ça, je me suis dit mais en fait c'est bon. J'ai pas besoin moi d'avoir des enfants. Tu vois? Et puis en vrai, est-ce que le monde a vraiment besoin d'encore plus d'enfants? Tu vois?
Et des tiens, en plus.
Voilà, et en plus des miens, qui plus est. Je trouve cette gigantesque satisfaction en ce moment, dans le temps que je passe avec mes petits-neveux et petites-nièces, qui sont pour l'instant hyper jeunes, mais tu vois, qui vont grandir et on va passer par certainement plein d'expériences, plein de partages et tout.
Le tonton cool, en plus.
Exactement.
Ah ouais.
Mon petit-neveu, quand il est venu ici il y a une semaine et demie, parce qu'ils allaient à la montagne, ils ont fait un arrêt à Paris, il était assis exactement à ta place, là, et je lui mettais des petits échos, tu vois, des petits effets de voix, etc. Et
genre vraiment, il s'est amusé pendant une demi-heure.
Et pour lui, il a parlé de mes néons salamèches, de mes trucs comme ça. Et pour lui, je suis le tonton, tu vois, le tonton trop cool, dont on attend la venue comme le messie à chaque fois, et dont on parle pendant des jours et des jours après qu'on l'ait vu, tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait, mais ça me donne un plaisir fou, tu vois ce que je veux dire? Genre, et je me dis, bah ouais, mais c'est moi, ça me suffit en vrai. Tu vois, ça me suffit, c'est cool. Je peux passer. Après, c'est bon, j'ai de la chance. J'ai un frère et une sœur avec qui j'ai une relation hyper fusionnelle. On s'entend hyper bien. Je peux aller les voir tant que je veux, tout le temps. Et ils sont même hyper contents que je vienne et ils aimeraient même que je vienne plus. Donc, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est génial, c'est idéal.
Que demande le peuple?
Ouais, bien sûr.
Et en plus de ça, tu vois, et c'est aussi un peu ce dont on parle dans ce podcast, j'ai encore des ambitions, tu vois, personnelles, de carrière, et etc., qui peut-être se marieraient pas non plus hyper bien avec le fait de devenir papa là maintenant, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai rien à aller chercher ailleurs, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, là, t'es bien, là.
Ouais, je suis hyper bien.
Ok.
Je suis hyper bien et je m'amuse. Je peux innover, créer, je peux rencontrer énormément de monde, énormément de filles.
Aïe, 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 aïe. Et comment Vivi, elle réagirait si, par exemple, là, dans deux semaines, elle doit monter à Paris?
Et elle entend ce podcast disant que je rencontre énormément de filles.
Non, mais elle t'appelle en te disant, voilà, je suis à Paris du 7 au 10 avril et tout, c'est cool si je dors chez toi.
Je suis sûr qu'elle accepterait que je lui dise je suis pas prêt, je peux pas.
Ah ouais, je suis pas dispo.
Ouais, je suis pas dispo.
Ok, d'accord.
Ah oui, elle accepterait. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, là, avant de monter, elle m'a dit j'ai beaucoup de trucs à faire avec Isabeau. Du coup, je vais aller dormir chez elle. Donc, je viens à Paris, mais je viens pas chez toi. Donc, j'ai fait ok, pas de problème. Bon, du coup, j'organise ma soirée, etc. Tu changes pas d'avis. Je vais prévoir d'autres trucs. Je fais ouais, t'inquiète et tout. Je commence ma soirée, je vais voir les gens que je devais aller voir. Je reçois un texto. J'ai envie de venir chez toi. et bon, bah, du coup, j'ai un peu changé mes plans, et puis, ouais. Et puis voilà. Mais bon, après, en vrai, ça m'a pas coûté de changer mes plans. Si ça avait pas été possible, je pense qu'elle aurait accepté que je dise, bah, écoute, non, maintenant, j'ai organisé autre chose, je suis pas dispo, je suis ailleurs, et je peux pas, tu vois. Et je pense que c'est ça qui, c'est justement dans cette optique qu'il faut qu'on reste, tu vois. Il faut pas qu'on se laisse aller à des débordements.
Après, c'est souvent difficile à contenir quand, surtout quand l'attachement et les sentiments sont présents, quoi.
Je sais bien, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'on a tous les deux ce même but commun d'essayer de faire de cette relation une relation d'amitié la plus saine possible, puisqu'on a tous les deux trop souffert de notre relation par le passé et on n'a pas envie de retomber dans les mêmes excès, tu vois.
Je pense que vous voilez la face.
Tu penses?
Ouais, je pense que tu peux pas avoir de relation d'amitié avec quelqu'un avec qui tu couches de temps en temps. C'est pas possible.
Ok, j'ai pas parlé de coucherie encore. Là,
oui, enfin bon, la valise béante.
Je ne m'étendrai pas sur ce point.
Si elle dort chez toi et qu'elle
tu penses que le sexe est incompatible avec l'amitié.
Ouais. C'est bien résumé.
Et ben, tu sais quoi, je vais te donner raison. Parce que à chaque fois que j'ai commencé à vraiment être ami, moi je suis ami avec beaucoup de mes ex.
Ouais. Mais c'est à partir du moment où il n'y a plus d'ambiguïté physique.
Et voilà, exactement. Ça a toujours été synchronisé avec fin de l'ambiguïté physique.
Oui, mais tu n'en es pas du tout là avec Victoria.
Non, je ne pense pas en être là avec Victoria. Le désir est toujours présent.
Oui, oui. On l'avait tous compris.
En même temps, j'arrive pas à comprendre comment on ne peut. J'aimerais bien, hein, mais comment on peut ne plus être attiré par Vivi? Je n'arrive pas à comprendre.
Je sais pas, je suis moi-même très attirée par Victoria.
Ah voilà. Non mais je comprends pas que qui que ce soit ne soit pas attiré par elle. J'aimerais bien trouver la manière de ne plus être attiré par lui.
Bah en dormant ensemble, en tout cas, c'est bien parti, ouais.
Non, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Il faudrait peut-être que j'utilise le matelas gonflable.
T'as l'air très, très investi dans cette tâche de te détacher physiquement de Victoria, en tout cas.
Non, non, moi, je veux me détacher émotionnellement.
Oui, mais on a déjà établi que les deux étaient intimement liés.
C'est vrai qu'on va pas tourner en rond non plus.
Non, mais pour résumer, Bastos n'est plus dans un schéma de dépendance affective envers qui que ce soit. Même si sa situation actuelle avec
est un petit peu casse-gueule.
Son ex, qui n'est pas non plus 100% son ex, n'est pas la plus claire et la plus...
Ouais, et cette situation menace, tu vois, genre il y a quand même à l'horizon la menace de retomber, tu vois ce que je veux dire.
Donc il y a quand même une épée de Damoclès
au-dessus
de vos têtes, ouais,
voilà,
qui fait que
exactement.
À tout moment, on peut repartir dans des travers...
C'est ça. C'est ça. Et depuis qu'on est amis, on s'est déjà disputé une fois, tu vois, pour des histoires...
D'amour ?
Non, c'est pas des histoires d'amour, mais c'est des histoires qui devraient pas exister en amitié. Et ça a prouvé qu'on n'avait pas le détachement qu'on essayait de prétendre avoir, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc voilà. Mais encore une fois, moi, je suis persuadé aujourd'hui que ma manière d'être heureux passe par le fait de ne pas tomber amoureux.
Mais ça, c'est sûr. N'importe quelle personne aurait été... Enfin, si tu vas, je sais rien, à une réunion d'alcooliques anonymes, tous ils te diront que leur seule façon d'être heureux et épanoui dans leur vie...
C'est de ne plus boire.
Bah ouais, ouais. C'est de ne pas reboire un jour dans leur vie, quoi. Et ouais. Toi, t'as exactement ce discours, mais avec...
Et je pense qu'il faut que j'assume cette différence, c'est-à-dire que ça rend pas tout le monde malheureux, l'amour, ça rend d'ailleurs plein
bien
de
sûr.
Gens heureux.
Bien sûr.
Maintenant, moi, je pense que c'est le cas, et je pense que je n'arriverai pas, tu vois, à être rendu heureux par l'amour un jour, donc... Et je suis pas du tout triste en disant ça. Mm-hmm. Genre, je pense qu'il faut que je l'accepte. Mm-hmm. Et
t'as pas l'impression de renoncer à quoi que ce
voilà,
soit.
Voilà, j'ai pas l'impression de renoncer à quoi que
c'est
ce soit.
C'est très ça en réalité.
Ouais, exactement. Tu vois, je pense que j'aurais plus l'impression de renoncer à quelque chose si je devais arrêter l'alcool que si je dois arrêter l'amour. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire parce que ta relation avec l'alcool est beaucoup plus saine que ta relation
exactement.
Avec les meufs.
Je préfère bien. Je préfère de loin une bonne gueule de bois. à une grande dépression.
Déjà, en termes de temporalité, c'est généralement un peu plus court, la gueule de bois. De tout.
Mais si on peut élargir un peu à, tu vois, à tout le monde, là, pour un peu conclure, parce que là, ça reste très personnel, si on peut élargir à tout le monde, les choses à retenir, c'est vraiment la dépendance affective, elle vient de toi, elle vient de personne d'autre. Donc, n'essaye pas de blâmer et... Je le dis, mais je l'ai fait.
En connaissance de cause.
Tu vois, en connaissance de cause, n'essaye pas de blâmer
des. Tant que tu essaieras de donner la responsabilité de tes comportements et tes réactions à quelqu'un d'autre.
Tu passeras pas au-delà.
Non. Voilà, c'est que déjà, tu seras dans un déni de toi-même et de tes comportements. Et que tu seras pas à un stade de lucidité où tu pourras éventuellement essayer de t'en sortir et de changer les choses de façon positive pour toi-même, quoi.
Voilà, exactement. Donc, le succès dans ces entreprises va être d'abord de mettre le doigt dessus, comme on l'a vu au début, c'est-à-dire avoir le recul de se dire « Ok, j'ai cette tendance à la dépendance affective. Mm-hmm. » Le deuxième truc, c'est arrêter de blâmer autrui pour, mm-hmm. tes malheurs et ta dépendance affective. Et au bout d'un moment, je pense que tout le monde probablement y arrive avec l'âge, tu vois, le nombre d'échecs
qui s'accumulent.
Voilà. Et puis après, voir si c'est possible ou non d'essayer de régler ou d'améliorer, comme peut-être ça l'est pour toi.
Bah, ça passe soit par le fait d'avoir analysé concrètement d'où ça vient. Alors encore une fois, ça peut venir de ton enfance, de ton adolescence, de ta construction familiale, d'un manque dans ta vie du côté de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, on n'en sait rien. Ou ça peut venir d'un manque d'estime de toi-même. Et là, ça peut être provoqué par tellement de choses que c'est tellement propre à chacun que... Mais il faut effectivement faire ce travail d'introspection. Il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel de santé et de psychologie, au contraire. Le verbaliser.
Ou Agathe, si elle a le temps, si elle a un petit créneau.
Je suis disponible tous les dimanches de 16 à 18. Et une fois cette analyse faite, ça vous permettra de rompre avec des schémas qui, vous le verrez, se répètent dans vos relations depuis très longtemps, quoi.
Voilà. Exactement, c'est-à-dire à la fin, prendre une décision.
Qui peut être celle de Bastos, c'est-à-dire d'arriver à la conclusion que ben, peut-être que la relation amoureuse, c'est pas fait pour vous, c'est pas ce qui vous épanouit, c'est pas ce qui vous rend heureux, et vous n'allez pas avoir ce sentiment de réussir votre vie et d'être épanoui en fondant une famille ou en partageant votre vie avec quelqu'un, et ce qui est très bien pour vous, du moment que vous êtes heureux, quoi.
Je vais terminer juste vite fait sur un petit truc, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 3 ans, quand j'ai commencé à être sur YouTube un peu sérieusement, j'ai fait une vidéo où j'assumais mon addiction au sexe.
Ah oui.
Et je pensais que cette addiction au sexe allait à l'encontre de ma faculté à tomber amoureux. C'est-à-dire qu'elle me rendait indisponible émotionnellement.
Ouais.
Et je décidais, pour régler ça, de faire une abstinence, un sevrage, me dire peut-être que si j'arrête de voir trop de filles en même temps, mm-hmm. je vais redevenir disponible émotionnellement. Mm-hmm. C'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Je suis tombé amoureux. J'ai souffert à nouveau.
Je suis de nouveau addict au sexe.
Donc, non mais, voilà, est-ce qu'il n'y a pas... Là, c'est pour aider les gens, s'il y en a qui se sentent un petit peu dans ma position. Est-ce qu'une addiction ne peut pas en remplacer une autre, possiblement saine, telle que le sexe, ne peut-elle pas me protéger? Et là, c'est une ouverture. Ne peut-elle pas me protéger contre le fait de retomber à l'avenir amoureux? Est-ce que je ne pourrais pas voir dans les problèmes d'antan les solutions de demain?
Non. Non.
C'est pas mal, non, comme idée?
Non, c'est nul à chier. Non, et dites-vous bien tous chez vous que le moindre comportement de dépendance, quel qu'il soit, et donc d'addiction, est mauvais à terme. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous pouvez voir là dans les 10 prochains jours, mais c'est quelque chose que vous ressentirez forcément sur le long terme. À partir du moment où on développe une addiction, c'est qu'il y a une névrose, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à régler en nous. Et parce que même, tu vois, par exemple, tu parlais de ce remplacement d'addiction, mais encore une fois, le mec qui est addict à la drogue ou à l'alcool et qui va remplacer cette addiction par du sport, il va se buter à la salle, il va faire que ça. Il remplace une addiction par une autre, mais il règle pas ce qui fait que chez lui, il y a quelque chose qui le pousse à avoir ses comportements addictifs et obsessionnels. Et c'est souvent des manques quelque part.
Exactement. Et de toute façon, plus, c'était plus une blague parce que plus sérieusement, cette addiction, elle ne me dérangeait pas que dans le fait de ne pas être capable de tomber amoureux.
Oui, non, mais
elle
me donne sanitaire voilà. Et
oui.
hygiénique.
Non, mais alors ça, par contre, j'étais très prudent. Mais par contre, elle me dérangeait dans le temps que je pouvais consacrer à mon travail, dans le temps que je pouvais consacrer à mes interactions sociales,
etc. L'amour 5 fois etc. par jour, c'est chronophage, oui.
Exactement, c'était oui. hyper chronophage. Donc du coup, ça me nuisait aussi d'une autre manière, tu vois. Bien sûr, c'était plus pour terminer sur une petite touche d'humour. Merci Agathe d'être venue.
Merci à toi.
C'était
pour ton
super. Agathe, est-ce que tu as des actus?
On est en train de préparer avec mes équipes une petite émission qui sera vraisemblablement sur YouTube avant l'été, où tu seras vraisemblablement invité aussi, je pense. Mais j'ai pas trop envie de le mettre dans l'univers parce qu'on est encore en train de tourner les pilotes, etc.
D'accord.
De s'accorder sur la prod. Donc. Mais voilà, ça va arriver.
Ok, donc ça bosse, ça prépare
bosse.
Des grands projets.
Ça bosse, ouais, exactement.
Ça m'étonne pas de toi. Les amis, si vous avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez 5 étoiles au podcast. Et puis, je vous retrouve dans une semaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité. J'invite pas que des filles quand même. Merci d'avoir écouté.
Merci,
je vous fais des gros
tous.
Bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.
Bisous.
Oh, ce qu'on va se mettre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.